Alors voilà, pour cette dernière session de la matinée, donc on va revenir sur un des sujets que Luc et Solveig ont mentionné ce matin, c'est aussi l'intérêt pour Pin d'ouvrir la thématique du punk aux jeunes chercheurs, alors que c'est un objet pas forcément légitime dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, on va aussi, au semestre prochain, commencer un séminaire à l'EHESS sur cette thématique-là, qui s'intitule Underground, écrire l'histoire du punk et des musiques alternatives. Et donc là, on va entendre trois étudiants en master qui vont justement revenir sur leurs recherches qu'ils ont faites sur le punk. Et le premier qui va parler, c'est Tom Desplanques.
Oui, donc moi, je suis étudiant aujourd'hui en master 2 de médiation de la musique et l'année dernière en master 1 de médiation culturelle, conception et direction de projets culturels qui sont encadrés par Solveig. Mon sujet de mémoire, c'est le vieillissement de la scène punk. Alors j'ai fait ce sujet... Et c'est assez marrant parce que Luc parlait tout à l'heure d'urgence, parce que moi j'ai vraiment senti une certaine urgence quand j'ai vu que pas mal des gens que j'écoutais quand j'avais 14 ans étaient en train de mourir. Et je me suis dit qu'ils ne voulaient pas que tout ça soit perdu aujourd'hui et qu'on n'ait pas la chance de le faire. Je n'ai pas beaucoup trouvé de travaux autour de ça. Et du coup j'ai vraiment ce sujet que j'ai fait par choix, après vrai, un vrai choix. Et donc en fait, moi je suis arrivé à Paris en 2013, donc il y a 4 ans, et donc j'ai vraiment découvert la scène punk ici, parce que de base je suis de Beauvais. Il faut savoir qu'à Beauvais, il n'y a pas trop de trucs qui se passent. Il y a un aéroport et voilà, et une petite salle de concert, enfin tout ça. Et du coup j'ai été très vite inséré dans cette scène punk plus actuelle. Et je me suis demandé d'où venaient ces gens, comment est-ce que ça faisait qu'il y avait autant de trucs à Paris et rien chez moi. C'est ce que j'ai essayé de vouloir vraiment retranscrire l'année dernière, un peu les chemins qui ont mené à ça et qui ont fait en sorte que ça existe encore et qu'il y a encore des concerts aujourd'hui alors que ça fait 40 ans que ça existe et que ça devait durer pas longtemps vu que on a un peu l'impression que les gens vivent pour mourir dans cette scène, des fois. Donc, première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé regarder dans le Larousse que c'était la définition du vieillissement. Et du coup, c'est le fait de devenir vieux, ensemble des phénomènes qui marquent l'évolution d'un organisme vivant vers la mort. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant qu'on parle d'organisme vivant, parce que je vois vraiment le punk comme une sorte d'organisme de plusieurs petites molécules qui se réunissent pour former quelque chose à la fin. Puisque en fait, je pense pas qu'un punk puisse exister seul, il a besoin d'être entouré pour exister réellement. Ça m'a fait penser aussi à la théorie du feu de camp dont Joe Strummer parle dans The Future is Unwritten, cette espèce de réunion, de partage, de communauté qui est créée autour d'un même milieu et qui peut pas exister sans cet endroit. Il faut savoir qu'il a trouvé ça aussi dans la techno une fois que le punk a été un peu plus oublié, enfin que le mouvement punk était en gros terminé. Ensuite à ça, j'ai voulu voir où est-ce qu'on parlait de vieillissement. Une des seules fois où on parle de vieillissement, c'est dans un fanzine qui s'appelle Maximum Rock'n'Roll. C'est le numéro 110 qui est sorti en 92. Et donc dedans, on parle. Le nom du fanzine, c'est Punk Over 30 and Still Giving a Shit. Et donc ça veut dire que c'est sur les punks qui ont plus de 30 ans. Et il faut savoir que dans ce fanzine, les punks qui ont plus de 30 ans sont considérés comme étant des vieux punks. Ce qui aujourd'hui est plus considéré comme étant des punks jeunes. C'est assez amusant. Donc on a Thurston Moore de Sonic Youth qui a 31 ans, Mr. Bread de Bad Religion qui a 29 ans, et Tom Peake de Poison Ivy qui avait 31 ans. Et qui, dans ce qu'ils disent, se sentent vraiment vieux, usés, et ont vraiment l'impression de d'avoir vécu quelque chose d'important dans leur vie. Et du coup, c'était assez intéressant de se rendre compte qu'en fait, la seule fois où on en a parlé, c'était en 92, et que les gens qui avaient 30 ans avaient l'impression d'être déjà vieux, et presque sur le déclin, et qu'en fait, Poison Ivy, ils ont joué il y a un an au Gibus, Bad Religion, ils font encore des t-shirts et des concerts, et voilà. c'est vraiment, les sensations qu'il y a, c'est que c'est vraiment un rituel, comme si c'était un rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais qui permettait de garder un petit peu la mentalité qu'on a quand on a de 15 à 20, une vingtaine d'années, et en fait ils sont vieillis physiquement mais pas mentalement. C'est un peu aussi ce qu'on peut vivre quand on regarde ce qui est devenu le CBGB aujourd'hui, qui est en fait qui a vraiment très mal vieilli vu que c'est un magasin de fringues hyper cher. Je pense que c'est un peu l'inverse de ce qui était voulu au départ. Ou aussi, comme je suis allé moi à Camden, mais qu'on m'a dit, ah, si tu verras, c'est un quartier hyper punk, et qu'en fait, j'ai vu que c'était un marché aux puces géant. Ce qui n'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et c'était un peu, ça fait des drôles d'effets, en fait, de voir comment les choses évoluent et comment est-ce qu'elles vieillissent. Donc moi, après, j'ai beaucoup fait d'entretiens. Qualitatif, j'ai pas fait du tout d'entretien quantitatif. C'était pas que je m'intéresse vraiment aux artistes et pas spécialement au public, enfin du moins de l'année dernière c'était mon centre d'intérêt. Il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment beaucoup aidé, comme Paul Pechnor qui est le premier guitariste des Dogs. Il y a aussi Thierry Tuborg qui m'a beaucoup aidé et j'ai été moins aidé par d'autres personnes qui m'ont dit que mon sujet était de la merde et n'avait pas lieu d'exister, que le punk était mort et qu'on s'en foutait, alors qu'ils se sont reformés il y a 2 ans pour refaire des concerts. Et donc voilà, donc en fait en 2017 il y a eu des nouveaux albums de groupes assez anciens comme les Sales Majestés ou comme Tagada Jones, mais il y a eu aussi des nouveaux groupes qui ont sorti des albums, mais c'était aussi pour moi assez intéressant de me rendre compte qu'en fait il y avait un projet qui était fait, un projet qui s'appelle, on est tous là en train de parler de ça et qu'on parle d'un truc qui a été oublié par les 3/4 des gens. Moi quand je dis j'écoute du punk rock, on me fait ça existe encore, enfin quand je parle des groupes que j'écoute ils me disent ah bon, moi j'écoute ça quand j'avais 15 ans et pour moi c'est mort depuis, donc c'est assez intéressant et ça me mettait vraiment à l'aise avec ça. Et une chose que j'ai remarqué qui m'a vraiment plu, c'était aussi une phrase encore de Joe Strummer qui dit « Tout le monde s'en fout de qui tu es, ce qui compte, c'est ce que tu fais. » Et je trouve que c'est vraiment important et que c'est ça que je vois beaucoup dans le punk, c'est-à-dire qu'on peut être n'importe qui, on peut être un PDG ou on peut être un ouvrier, en fait, on va tous être la même personne tant qu'on fera des choses, si on fait la même chose, on aura le même grade. Et c'est quelque chose que, moi qui viens du milieu rock, j'ai moins vu dans le rock, parce que je me suis souvent senti comme une merde à côté d'un gars, alors que en vrai, bah, on était tous les deux sur la même affiche pendant un concert, et que j'ai jamais vu dans le punk. Et c'est pour ça, j'ai vraiment l'impression que c'est en rupture avec la société, comme quand Buzzcocks ont sorti leur premier album. Steve Dogey qui dit quand on a commencé à faire le groupe, c'était pas que pour s'amuser, c'était qu'on voulait vraiment faire des trucs, et vraiment s'aider de la musique pour les faire. Et je trouvais ça vraiment intéressant, et ça revient aussi à ce que Paul Pechnar m'a dit. En gros, il m'a raconté que à l'époque, donc il y a 40 ans, moi j'ai pas connu ça, mais en gros, les disques et la musique, c'était un peu comme nous, quand j'étais gamin, les billes dans la cour de récré. C'est qu'on s'échangeait beaucoup les disques, il y avait une énorme corrélation autour de la musique qui est autour de tout ça, qui faisait que c'était un peu le seul moyen, le principal jouet qu'on se partageait. Et donc, ça m'a fait faire aussi un espèce de parallèle avec le dadaïsme qui faisait qu'en gros, à chaque époque, en fait, il y a des mouvements qui se servent de l'art. Le punk s'est servi de la musique, mais ça s'est aussi servi d'autres choses. Mais là, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup en musique, et je pense que c'est aussi très important que ça ait eu lieu comme ça, parce que ça a amené beaucoup de monde à une certaine facilité et à se dire qu'on pouvait faire de la musique même en sachant pas jouer. Et c'est assez important de pouvoir montrer ça, de montrer que des mecs comme les Sex Pistols qui savaient pas vraiment jouer, bah ont su encore être, enfin savent encore aujourd'hui vendre des albums alors qu'ils en ont sorti un seul et que tout le monde les connaît, et c'est effrayant. Et puis ce que me disait Paul aussi, c'était que justement le gros problème du punk à cette époque, qui a l'air d'être un petit peu oublié, même si on le retrouve beaucoup chez les groupes de teenage, c'est que Teenage, pour moi, c'est les nous qui sont chez des labels comme Hopeless Records ou d'autres labels américains, qui en gros, il y avait une énorme part de business autour du punk rock, et c'était un peu ça qui a aussi causé la perte du punk, parce que ça, au final, on est un peu sorti de... On est un peu sorti de tout ce qui était les idées de base que voulaient ces mecs, qui étaient juste de jouer et pouvoir s'amuser et se révolter, parce qu'il y avait une énorme part de violence. Il m'a raconté un concert qu'ils avaient fait au Golf de Rouault, qui était un peu la place des une place qu'aujourd'hui on pourrait assimiler aux bébés rockers, qui en gros, ils ont tout pété dans la salle. Et il y avait plein de producteurs qui étaient là, qui ont trouvé ça incroyable et génial, et du coup ils ont voulu signer les Dogs parce qu'ils avaient cassé le Golf de Rouault. Et c'est vrai que la violence était quand même quelque chose de très important, qui a aussi été mise beaucoup en avant, et qui est encore aujourd'hui très imagé, et le punk vieillit d'une façon assez spéciale à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans plein de concerts, les pogos sont un peu interdits. On va dire juste aux gens de réfléchir à ce qu'ils font et de penser aux gens qui sont à côté d'eux, pour que le message qui soit le mieux compris soit le message des paroles, pas forcément les messages du public. Ça, c'est pour la scène la nouvelle scène punk qui veut une certaine forme de liberté et de tolérance, mais là une tolérance et plus à la violence comme avant, ce que j'ai pu lire ou voir, parce que j'ai moins pas eu la chance de voir ça il y a 40 ans. Au niveau des fréquentations des salles, j'ai eu la chance d'avoir des chiffres du Gibus que Florian Caro, le programmateur, m'a transmis. Et c'est là aussi que c'est intéressant, parce qu'on voit que les groupes qui se reforment ramènent encore un nombre de personnes assez important, comme les Rats, quand ils ont joué au Gibus, c'était complet. Voilà, ils ont bloqué à 450 entrées et à une cinquantaine d'invites, donc il y avait environ 500-550 personnes dans la salle pour un groupe qui n'avait pas joué depuis des années. Et... ouais, bah ouais, je t'ai vu, je crois. Ouais, c'était bien. Et donc c'était un plateau assez intéressant aussi d'un point de vue vieillissement, parce que la première partie des Rats, c'était Guerilla Poubelle, qui est un groupe qui fait énormément de choses pour la nouvelle scène punk française, et sur lequel je vais vraiment essayer de beaucoup travailler pour l'année prochaine, parce que je dois axer mon travail sur la médiation et sur la transmission. Et du coup, j'aimerais beaucoup voir comment est-ce que les labels de punk et les fanzines et les organisations de concerts, enfin tout ce qui fait que le punk arrive encore à exister aujourd'hui, bah, font en sorte de créer un espèce de microcosme et un endroit où chacun a un endroit de parole et où tout le monde se transmet des informations perpétuellement. Et voilà, et je vais juste essayer de finir avec une phrase de Thierry Tuborg qui me disait qu'en gros, les punks finissent toujours mal. Et du coup, voilà.